Très bon réveil à tous. Voici le journal de Catherine Dutu. Bonjour Catherine.
Bonjour Guillaume, bonjour à toutes et à tous. Des renforts humains et du matériel supplémentaire pour la Guyane, c'est ce que promet la ministre des Outre-mer, Annick Girardin, arrivée hier soir dans ce territoire d'outre-mer où la situation s'aggrave d'heure en heure face au coronavirus. Faut-il aller jusqu'au reconfinement? Habitants et professionnels de santé sont partagés sur la question. Ils craignent que les pauvres, les plus pauvres, n'en fassent les frais. Vous l'entendrez dès le début de ce journal.
L'Allemagne, elle, a déjà reconfiné hier plus de 600 000 personnes face à l'éruption d'un foyer de contamination dans le plus grand abattoir d'Europe.
Des abattoirs industriels dans le collimateur, également des associations de défense des animaux et de l'environnement, mais cette fois en France.
Emmanuel Macron est-il intervenu pour sauver le secrétaire général de l'Élysée, Alexis Kohler, des griffes de la justice?
Une note du chef de l'État révélée par Mediapart dédouane en tout cas son bras droit Alexis Kohler alors qu'il était visé l'an dernier par une enquête pour prise illégale d'intérêts. La suite de notre tour des villes de France avant le second tour des municipales, direction Bordeaux ce matin. Existe-t-il encore un front républicain pour ces élections municipales? C'est la question que posera Frédéric Saïs dans son billet politique juste après ce journal. Alors que l'épidémie de Covid-19 ravage encore l'Amérique latine et les Caraïbes avec plus de 52 000 morts rien qu'au Brésil, la situation s'aggrave aussi en Guyane, ce territoire d'outre-mer français voisin du Brésil. 2594 cas positifs ont été enregistrés, 135 de plus en 24 heures, une centaine de patients ont été hospitalisés et 8 sont morts. L'État sera au rendez-vous, promet ce matin la ministre des Outre-mer Annick Girardin qui est sur place en Guyane. Elle promet des renforts de la réserve sanitaire, des moyens supplémentaires encore dans les jours à venir. Va-t-il falloir reconfiner la Guyane? Loïc Épelboin, médecin infectiologue au centre hospitalier de Cayenne, s'interroge face à la gravité de la situation.
La situation, elle est exponentielle. Là, en quelques jours, on a accumulé autant de cas que depuis début mars sur le territoire de la Guyane. Notamment, les patients sévères affluent vers les hôpitaux et en particulier celui de l'hôpital de Cayenne, créant des difficultés pour arriver à prendre tout le monde en charge au niveau des urgences et puis la réanimation qui, elle aussi, pour l'instant tient la route, mais pour combien de temps? La Guyane se trouve dans une situation très particulière, c'est-à-dire qu'on a confiné en même temps que la métropole de mi-mars à mi-mai, à un moment où il y avait relativement peu de cas qui arrivaient, des cas qui arrivaient principalement de métropole et qui ont été contrôlés. On a déconfiné comme tout le monde à un moment où l'épidémie n'avait pas encore eu lieu. Et puis là, l'épidémie a commencé à peu près depuis 15 jours, 3 semaines, un petit peu plus, venant de l'est de la Guyane. Les cas explosent. Alors oui, la question qui se pose pour tout le monde, c'est le reconfinement, certes, mais à quel prix? Forcément, du point de vue du médecin et du point de vue sanitaire, infectiologique, j'aurais envie de reconfiner, mais j'ai aussi eu l'occasion soit d'avoir du retour des associations qui bossent dans les quartiers les plus défavorisés, ou j'ai eu l'occasion d'aller faire des missions à Saint-Georges-de-l'Oyapock, à la frontière brésilienne, où il y a une pauvreté très importante, et je suis très effrayé pour ces gens qui vivent en Guyane et qui risquent peut-être pas de mourir de faim, mais enfin d'avoir vraiment faim, de plus avoir accès à la nourriture, de plus avoir aux soins pour leur pathologie chronique. Voilà, comme tout le monde, je suis très partagé. Probablement que le confinement serait la solution, mais à condition que l'État mette les bouchées doubles ou triples pour faire en sorte que ces populations aient à manger et aient des médicaments.
Loïc Épelboin, médecin infectiologue au centre hospitalier de Cayenne, il répondait à Julien Langlais. La France n'a pas le droit au relâchement, rappelle Matignon, en appelant à la discipline individuelle pour éviter une nouvelle vague de coronavirus, alors que des mesures de reconfinement ont été prises hier au Portugal et en Allemagne. Notre voisin, Outre-Rhin, était jusqu'ici relativement épargné par l'épidémie de coronavirus, mais depuis la découverte d'un foyer épidémique géant il y a quelques jours dans un abattoir à l'ouest du pays, la situation a totalement changé. L'Allemagne a donc décrété hier ses premiers reconfinements locaux, plus d'un demi-million de personnes concernées, Romain Chevalier.
Deux cantons sont à nouveau confinés, c'est une première en Allemagne. Il s'agit de celui de Gütersloh et de son voisin de Warendorf. Ils se trouvent tous les deux en Rhénanie du Nord-Westphalie, une région située à l'ouest du pays. Au total, 640 000 personnes sont à nouveau confinées. Dans les faits, les contacts entre les personnes sont limités, les bars, les cinémas et les écoles sont fermés. En revanche, les habitants sont toujours autorisés à circuler librement. Ces mesures vont pour le moment être appliquées pendant une semaine, soit jusqu'au 30 juin, le temps de voir si la situation s'améliore. L'objectif, c'est d'éviter une nouvelle propagation du virus et de tester au maximum la population, car c'est là-bas à Gütersloh qu'un énorme cluster a été détecté il y a quelques jours dans un abattoir. D'après les autorités, 22% du personnel est contaminé. Le chef de la région a donc annoncé que les employés des entreprises de viande seront dorénavant testés.
Romain Chevalier à Berlin pour France Culture. Les élevages industriels, source potentielle de propagation d'épidémies, on l'a entendu, c'est ce que déplorent les défenseurs du bien-être animal. Sur le sujet même de la condition animale, un rapport a été remis hier au Parlement en France par le groupe Conditions Animales de La République En Marche. Et puis, dans un autre rapport publié ce matin, Greenpeace dénonce de son côté le rôle des pouvoirs publics dans l'industrialisation de l'élevage de volailles et de porcs, surtout en Bretagne et dans les Pays de la Loire. Un modèle qui se développe le plus souvent au détriment des agriculteurs eux-mêmes. Greenpeace demande qu'un moratoire sur les méga-installations d'animaux qui contribuent au réchauffement climatique soit institué à leur choix.
Lorsque Greenpeace avait publié sa carte des fermes-usines de France, l'ONG avait été vivement critiquée par le monde agricole et pour cause, ses chiffres étaient faux, ce qu'elle avait d'ailleurs reconnu. Ce nouveau rapport sur les élevages industriels en France est moins dénonciateur. Il cherche à faire le point sur l'évolution de ces fermes-usines définies par plusieurs critères. Le confinement d'animaux, la recherche d'une productivité maximale, la présence de capitaux qui ne sont pas ceux de l'agriculteur dans l'exploitation et bien entendu l'impact négatif de ces élevages sur leur environnement. En France, ils se développent, en porcs et en volailles notamment, puisque 2/3 de la production française de porcs, d'œufs et de poulets est réalisée par 1% seulement des exploitations. Pour Véronique Le Floc, éleveuse laitière et membre de la coordination rurale, cette industrialisation est moins souhaitée par les producteurs que contrainte par l'industrie agroalimentaire.
Les seuls choix qu'ont les agriculteurs, ce sont des modèles plus ou moins dictés par les industriels, des industriels cautionnés ou encouragés par tout le para-agricole qui lui aussi a un intérêt, des investissements, des projets, bâtiments, tout ce qui concerne les intrants. Donc l'industriel vise des volumes à pas cher. Et l'alternative, c'est le circuit court, où du coup, on ne nous fixe pas les objectifs, mais on se fixe les objectifs soi-même. Mais le circuit court, il n'est pas adapté à toutes les exploitations. C'est compliqué, quoi.
Greenpeace, de son côté, pointe l'affaiblissement de la réglementation autour de ces fermes-usines, le manque de moyens pour les contrôler et la hausse des accidents de pollution à leurs abords.
De son côté, l'association L214 porte plainte pour sévices graves contre un abattoir près de Rodez, dans l'Aveyron, avec à l'appui des images chocs d'animaux mal étourdis par électrochoc, puis égorgés à la chaîne. L214 porte donc plainte pour sévices graves parce qu'il y a 4 ans déjà, un rapport officiel notait une série de non-conformités dans ce même abattoir. L'association porte également plainte contre les services vétérinaires de l'État. Alors que l'Unédic anticipe la destruction de 900 000 emplois cette année pour éviter encore plus de licenciements, le nouveau dispositif de chômage partiel de longue durée est dévoilé cet après-midi par Emmanuel Macron aux partenaires sociaux. Un accord collectif devrait permettre de réduire l'activité des salariés avec une prise en charge par l'État. En échange, les entreprises s'engageraient à ne pas licencier.
8h08 sur France Culture, c'est la suite des matins avec le journal de Catherine Dutu. Emmanuel Macron est-il intervenu pour sauver le secrétaire général de l'Élysée, Alexis Kohler, des griffes de la justice?
Mediapart publie une lettre dans laquelle le chef de l'État souligne la probité de son secrétaire général. Cette lettre a été transmise l'été dernier au parquet national financier qui avait ouvert une enquête préliminaire visant Alexis Kohler pour conflit d'intérêts et prise illégale d'intérêts. Quelques semaines plus tard, ce même PNF prononçait un classement sans suite. L'enquête de Mediapart établit un lien direct entre cette intervention du chef de l'État et la mise hors de cause d'Alexis Kohler. Pour sanctionner le choix cynique d'un laboratoire ayant privilégié, je cite, ses intérêts financiers à la santé des patients, le parquet de Paris a requis hier soir plus de 8 millions d'euros d'amende contre le groupe Servier et de la prison ferme contre son ex numéro 2, jugé dans l'affaire du scandale sanitaire du Mediator. Un réquisitoire fleuve de plus de 9 heures à l'image du procès qui doit se terminer le 6 juillet prochain. Le jugement est attendu l'an prochain. Il revendique 1 million de soutien contre les violences racistes et policières. Et fort de cela, des collectifs ont écrit à Emmanuel Macron pour lui demander de nommer dans un futur gouvernement remanié une personne chargée de recueillir les plaintes pour violences policières et d'interdire aussi des techniques d'interpellation qui consistent à plaquer des personnes au sol, la clé d'étranglement également ou encore le pliage. Alors que la police est accusée de racisme et de discrimination un peu partout en Europe, Amnesty International publie aujourd'hui un rapport sur les violences policières et les discriminations pendant le confinement. Selon l'ONG, dans le cadre du contrôle du respect des mesures sanitaires, la police aurait visé de manière disproportionnée des minorités ethniques en Europe. Élise Delève.
La discrimination dans les polices d'Europe est omniprésente selon Amnesty International. Pour ce rapport réalisé pendant le confinement, donc sans pouvoir aller sur le terrain, l'ONG s'est notamment appuyée sur des vidéos postées sur Internet comme celle-ci. On voit un homme d'origine nord-africaine dans les rues de Bilbao, en Espagne, refuser un contrôle. Le policier le plaque violemment contre le mur, puis la scène de coups de matraque. Ces vidéos, partout en Europe, ont un point commun, note Nicolas Crameyer, responsable du programme Liberté pour Amnesty International.
Un grand nombre de vidéos montrant un usage illégal de la force par les forces de l'ordre, ces vidéos, généralement, provenaient d'un certain nombre de quartiers défavorisés avec une population d'origine étrangère extrêmement forte.
Amnesty épingle également la France. En Seine-Saint-Denis, où la majorité des habitants sont noirs ou d'origine nord-africaine, les policiers ont mis 3 fois plus d'amendes que dans le reste du pays, alors que selon les autorités locales, les mesures sanitaires étaient aussi bien respectées qu'ailleurs. Amnesty demande aux pays européens de réformer en profondeur les pratiques policières, en interdisant notamment l'emploi de la force, sauf ultime recours, et en mettant en place des statistiques pour étudier le racisme dans la police.
8h11 sur France Culture, nous continuons notre tour de ville de France en vue du second tour des municipales ce dimanche. Ce matin, nous vous emmenons à Bordeaux où le candidat En Marche a rallié le maire sortant Les Républicains Nicolas Florian. Le successeur d'Alain Juppé est arrivé en tête avec 34% des voix au premier tour, à peine 100 voix de plus que l'écologiste Pierre Urmic. En troisième position, c'est Philippe Poutou, l'ancien candidat à l'élection présidentielle, travailleur historique de Ford. Philippe Poutou, candidat du NPA, de la France Insoumise et des Gilets jaunes affiche plus de 11% des voix. Un second tour à Bordeaux, c'est historique. Depuis plus de 70 ans, la droite s'était toujours imposée au premier tour, Yvan Planteil.
Pour Pierre Urmic, le candidat des Verts, son heure est enfin arrivée, et celle de l'écologie par la même occasion. Pour s'en convaincre, il s'appuie sur Victor Hugo. Rien n'arrête une idée dont le temps est venu.
Aujourd'hui, le temps, c'est le temps de l'écologie. Les villes qui ne prendront pas aujourd'hui le virage de l'écologie, demain, elles sont mortes.
Sauf que les électeurs ne semblent pas le suivre. Le dernier sondage donne Nicolas Florian en tête avec 49% des intentions de vote grâce à l'alliance LR-LREM. Derrière lui, Pierre Urmic grimpe difficilement à 40%. Cela expliquerait pourquoi l'écologiste tente le tout pour le tout, à en croire Nicolas Florian. La semaine dernière, Pierre Urmic l'attaque en justice et dénonce une confusion volontaire des genres. Il lui reproche d'avoir envoyé des mails en sa qualité de maire à plus de 100 000 Bordelais concernant les mesures sanitaires du second tour. Sauf qu'à la fin de ces mails, Nicolas Florian les invite à voter pour lui via des procurations. L'intéressé n'y voit rien d'anormal, bien au contraire.
C'est presque malveillant comme démarche. Ça veut dire qu'on n'a plus rien à dire sur le fond que de considérer que le seul argument électoral, c'est de dire que le maire utilise son titre de maire. Mais c'est une réalité. Je suis le maire, je ne vais pas changer de nom non plus. Il préfère jouer sur les prétoires que sur l'isoloir.
En retrait de la bataille Urmic-Florian, Philippe Poutou, candidat anticapitaliste soutenu par la France Insoumise et les Gilets jaunes, il veut frapper fort en raflant un maximum de conseillers municipaux. Il devrait en avoir 3. Mais en espère 4, voire 5. Philippe Poutou entend profiter de la dynamique de la colère sociale dans la rue ces 2 dernières années pour porter ses idées au Palais Rohan, l'autre nom de l'hôtel de ville.
On a vu les politiciens les uns les autres, pas capables, donc à un moment donné, il faut qu'on prenne nos affaires en main. C'est cette idée-là, quoi. C'est comment on s'occupe de nos affaires et on va à un endroit où a priori on n'est pas invité.
Pesé sans s'allier à Pierre Urmic, le candidat le plus proche a priori de ses idées, dès le début de la campagne, Philippe Poutou avait annoncé la couleur. Leurs programmes sont incompatibles.
Reportage signé Yvan Planteil. Lui pourrait rester au pouvoir jusqu'en 2036. En Russie, Vladimir Poutine compte bien profiter du traditionnel défilé de la victoire de 1945 sur les nazis, aujourd'hui, événement reporté le 9 mai dernier pour cause de pandémie, pour créer ce mercredi un moment de communion patriotique. Claude Bruyot, bonjour, vous êtes le correspondant de France Culture à Moscou. Vous suivez pour nous ce grandiose défilé militaire sur la Place Rouge qui se tient donc juste avant la consultation populaire lancé demain pour réformer la constitution russe et pour permettre à Vladimir Poutine d'effectuer 2 mandats supplémentaires, potentiellement jusqu'en 2036, Claude.
Слава народу победителю! Ура!
Une parade de remplacement avec tout de même 14 000 militaires, dont un contingent symbolique de soldats chinois, qui en raison du décalage horaire a déjà eu lieu dans les villes d'extrême-orient russe, comme à Vladivostok ou Rabarovsk, comme vous l'entendez derrière moi. Une parade destinée à donner un sentiment de retour à la normale, ainsi en a décidé Vladimir Poutine, qui invitera aujourd'hui encore à cette occasion les électeurs à soutenir massivement sa réforme constitutionnelle. Les arguments du président russe qui refuse de parler de successeurs potentiels sont toujours les mêmes. L'Union est garante de la stabilité du pays. L'Union, comme en 1945 pour gagner la guerre contre le nazisme, est la stabilité qu'il entend personnifier encore longtemps pour protéger la Russie des crises, même si la pandémie de Covid-19 est toujours là, avec plus ou moins 8000 nouveaux malades chaque jour dans le pays, et des électeurs que les organes du pouvoir essaient malgré tout de décider à voter dès demain, en allant jusqu'à promettre, par exemple, des places de spectacle ou des billets de tombola.
Claude Bruyau à Moscou pour France Culture. Aux États-Unis, Donald Trump était en campagne hier sur l'un de ses thèmes de prédilection, séquence immigration avec un déplacement dans l'Arizona. Donald Trump qui a par ailleurs menacé hier d'user d'une force conséquente si des manifestants tentaient d'établir une zone autonome à Washington pour dénoncer notamment les violences policières. Ce tweet a été masqué par le réseau social Twitter. La plateforme préférée pourtant du président a décidé de barrer ce message d'une mention signalant un contenu qui enfreint ses règles sur les contenus inappropriés, tout en laissant tout de même la possibilité de lire ce message. Les géants du numérique qui décident peu à peu de prendre leurs responsabilités, la traque des photos et vidéos truquées prend de l'ampleur sur la toile. Le géant Google propose ainsi un nouveau service dans les résultats de sa section images en faisant apparaître des articles dits de vérification des faits, Benoît Grossin.
Face à la prolifération des images sur le web, le label de fact-checking de Google doit permettre aux internautes de connaître l'origine, l'authenticité ou le contexte des documents qui peuvent poser problème. Le géant américain, en présentant son nouveau système, donne l'exemple de photos truquées montrant à tort des requins dans les rues inondées de Houston après un ouragan. Il s'agit de traquer des photomontages ou des images réutilisées avec une modification de la légende. C'est ce que font les décodeurs du journal Le Monde en révélant récemment parmi les clichés détournés l'utilisation d'une photo montrant de nombreux cercueils alignés en Italie, photo censée illustrer la catastrophe sanitaire, alors qu'elle a été prise en 2013 suite à un naufrage près de Lampedusa. Google, pour son nouveau service, affirme se limiter à une contribution technique, puisque l'outil repose sur une base de données alimentée, souligne la firme, par des vérificateurs indépendants, des sources fiables déterminées par un algorithme. La reconnaissance d'images ne cesse de se développer depuis une dizaine d'années chez les géants du net, Google, mais aussi Facebook, qui a créé une intelligence artificielle capable d'analyser automatiquement le contexte d'une photo. Et c'est un soutien précieux pour le secteur des médias, parmi les premiers bien sûr à ne pas vouloir être trompé. L'agence France Presse, pour débusquer les images trafiquées ou sorties de leur contexte, pratique de longue date le fact-checking en remontant à la source grâce à une recherche inversée en ligne pour voir s'il existe des images similaires ou identiques déjà publiées.
Quelques mots du temps de ce mercredi 24 juin estival sur l'ensemble de l'Hexagone avec une forte hausse de la chaleur, 29 à 34 degrés attendus cet après-midi sur la moitié nord du pays, 31 à 37 au sud.